j'escalade des montagnes à droite à gauche. Là, ça fait 3-4 heures que je me suis paumé. Je commence à paniquer un peu. Je lève la tête et là, face à moi, à 5 mètres devant moi, il y a un puma avec ses deux petits. Il faut pas lui tourner le dos. Il faut garder le eye contact. Reculer petit à petit avec, en le regardant dans les yeux. Et surtout, surtout, s'il est avec ses enfants, ne pas l'approcher. Et là, je me suis dit, bon, j'ai fait la totale, j'ai fait l'inverse.
Salut, c'est Loïc, bienvenue sur Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Chaque semaine, je vous fais découvrir des invités extraordinaires, des femmes et des hommes qui ont osé se lancer et qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs les plus fous. À travers leurs actes, ils nous montrent, par l'exemple, que tout est possible et qu'on a tous un potentiel exceptionnel, en réalité, un frappé qui sommeille en nous. Eux se sont autorisés à le libérer. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez soutenir le podcast en devenant contributeur sur Tipeee, le lien est en description, ce qui vous permettra d'écouter les épisodes en avant-première, de rejoindre les visios mensuels des frappés ou encore d'accéder à du contenu exclusif. L'aventure peut prendre bien des formes. Julien s'est lancé dans un grand voyage en Amérique du Sud. Il a fait le tour de la Patagonie argentine et chilienne en autostop. Il a ainsi parcouru plus de 9000 km uniquement via ce moyen de transport en se faisant accueillir à bord de 160 voitures. Alors pourquoi l'autostop ? D'abord par conviction, parce qu'il considère que ce qui fait la magie des voyages, ce sont les rencontres et l'immersion dans le quotidien des gens. Ensuite, par envie de se challenger avec l'autostop sur un continent qu'il ne connaissait pas. Et enfin, parce qu'étant encore étudiant, c'était aussi un moyen de vivre une aventure extraordinaire sans se ruiner. Des journées entières passées à attendre au bord de la route, dans des endroits parmi les plus isolés du continent, à la générosité des locaux qui lui ont tendu la main, jusqu'à sa rencontre avec un puma, on part voyager en Patagonie avec Julien. Attachez vos ceintures, on démarre.
Je suis parti solo faire le tour de la Patagonie en autostop pendant 4 mois, de janvier 2023 à fin mai. Je suis parti d'Argentine, de Buenos Aires, fin janvier. Ensuite, je suis allé sur la côte, puis j'ai descendu la route qui s'appelle la Ruta 40, qui passe par Bariloche, El Chalten, et jusqu'à descendre à Ushuaia et arriver là-bas mi-avril. Et ensuite, je suis remonté par le Chili. Donc tout ça, je l'ai fait en 4 mois en solitaire. J'ai parcouru plus de 9000 km en autostop et j'ai été pris environ par 160 voitures.
Excellent. Pourquoi l'autostop ? C'était vraiment exclusivement de l'autostop ou majoritairement c'est ce que tu as fait ?
Non, alors je me suis dit au début c'est exclusivement de l'autostop. Puis ensuite, quand je suis arrivé dans les villes, dans les villes quasi impossible de faire de l'autostop, trop dangereux, trop bizarre en fait d'être en ville et de faire de l'autostop, ça ne fonctionne pas trop. J'ai essayé dans les petits villages, ça fonctionne bien. Et donc c'était bus dans les villes et ensuite j'ai fait 2-3 entorses. Une fois, quand j'étais très malade, je vomissais, c'était impossible que j'aille prendre, que j'aille faire de l'autostop, que je raconte à nouveau mon expérience, j'en avais marre. Et puis une fois, je crois que j'avais attendu un jour et demi sur la route, et là je me suis dit, ok, soit j'arrête totalement l'aventure, soit je prends un petit bus sur une courte durée pour me sortir du pétrin dans lequel je suis. Donc c'était quand même, c'était à 99% de l'autostop.
Ok. Par ailleurs, c'est un mode de voyage que tu avais déjà expérimenté par le passé en France ou c'était une découverte là ?
Ouais, non, c'était clairement pas une découverte. je m'étais chauffé avant. J'avais commencé en Italie il y a 2 ans, faire un petit trajet en autostop. Je pensais pas du tout que ça allait fonctionner. Je connaissais personne de mon entourage qui avait fait de l'autostop avant. Et puis, je me suis dit, je vais essayer. Je me suis posé au bord de la route à la frontière franco-italienne. Puis là, ça a marché. J'étais super surpris. Je ne savais pas quoi dire. En fait, le gars m'a demandé, où est-ce que tu veux aller ? Et je lui ai dit, dépose-moi à 5 km. Je n'avais même pas anticipé que ça allait fonctionner. Et puis ensuite, ça a fonctionné. Donc, j'ai pris en confiance. Ensuite, je me suis dit, je vais partir de Gênes, au nord de l'Italie, jusqu'à Rome, en stop, pour voir si tous les chemins mènent à Rome. Et effectivement, j'ai atterri à Rome en autostop, ça a fonctionné. Ensuite, j'en ai fait un peu plus dans les pays nordiques. Et puis, c'est arrivé juste avant que je parte en Argentine. Je faisais un stage dans un fonds d'investissement en finance à Lyon. Et puis, je me suis dit, bon, bah, pour ce voyage-là, après ce stage, partir en Amérique du Sud, je vais plus développer cette pratique que j'aime beaucoup. Et puis, je vais faire mon voyage. Je vais essayer de faire tout mon voyage comme ça. Et j'ai tenu jusqu'à 4 mois.
Excellent. Excellent. Tu dirais que c'est quoi qui t'a attiré dans cette façon de voyager? Est-ce que c'est un rapport avec le fait que tu es encore étudiant, donc il y a une raison budgétaire ou pas vraiment?
Il y a le fait que ce soit gratuit, carrément. Mais non, mais les premières raisons, c'est pas ça. Les premières raisons, c'est d'abord rencontrer des locaux. Des gens. J'adore le contact humain, rencontrer de nouvelles personnes, écouter des histoires et partager mon histoire aussi. Ça, c'est le premier point avant tout. J'aime voir, surtout en Amérique du Sud, en Argentine, j'aime voir comment les gens vivent, connecter avec les gens. Puis il y a même, là-bas je m'en suis rendu compte, avant ça ne m'était pas beaucoup arrivé, mais il y a même la possibilité de se faire inviter chez les gens. Tu arrives à 22h dans une ville et le gars ne va pas te dire « bon bah, vas-y, je te laisse là, va dormir dans ta tente au bord de la route ». Bon, ça m'est déjà arrivé bien sûr, mais quand même le gars propose parfois et dit « bon bah vas-y, viens chez moi, je te fais rencontrer ma famille, je te fais à manger, etc. » Et puis donc voilà, très sympa. Et ensuite, bon, il y a un petit combo, pour moi c'est le combo parfait, en fait c'est autostop et camping. Camping parce que tu as ta tente et que tu peux dormir au bord de la route quand personne te prend. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la liberté. Et enfin, le critère dont tu as parlé, c'est voyager à petits coups. C'est vrai que ça coûte pas très cher l'autostop.
Ouais, clairement. Du coup, le combo idéal autostop plus j'irai dormir chez vous, c'est un peu tu nous fais une Antoine de Maximi là en fait.
Ouais, on m'en a pas mal parlé, un petit peu, mais je crois que j'avais même pas regardé d'épisode.
C'est vrai.
Bon, ça, ouais, je te promets. Ouais. Moi, ma plus une grande source d'inspiration, c'était Nu et Culotté. C'est deux potes qui partent tout nus en général dans la nature et qui veulent réaliser un petit rêve, par exemple construire un igloo en Finlande ou des trucs comme ça, et ils partent sans argent, littéralement sans vêtements, donc forcément ils sont obligés de se déplacer en autostop. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, l'autostop, ça fonctionne. Si eux le font et font des centaines de trajets comme ça, ça doit fonctionner. Mais après, eux ressemblent aussi un peu à Pékin Express, enfin j'irai dormir chez vous.
Ouais. Est-ce que t'es d'un tempérament plutôt tu vois, entreprenant, extraverti, t'as aucune difficulté à aller vers l'autre, ou c'est quelque chose que t'as dû travailler justement quand t'as pris la décision de favoriser ce moyen de transport?
Alors je suis fils unique et mes parents sont divorcés, donc j'ai une petite famille réduite. Je pense que j'étais habitué très jeune à aller voir les autres, parce que je voulais pas être seul et puis je voulais avoir des copains, jouer avec des gens quoi. Et donc j'ai été habitué à être sociable, je pense aujourd'hui, ouais, je pense que c'est une de mes qualités, c'est d'être sociable, d'aller vers les autres. Après il y a être sociable, entrer dans un groupe, commencer à parler, et puis être sociable, partir tout seul, et puis être capable de camper tout seul et rencontrer des gens. Je pense que j'ai passé un step avec ce voyage là en termes de sociabilité, je pense.
T'as une anecdote peut-être qui pour toi reflète un peu, tu vois, ce passage de cap que tu viens d'évoquer?
D'aller vers les autres.
Ouais, d'aller vers les autres, ou te rendre compte que tu vois, tu étais capable finalement, j'allais dire, en comptant que sur toi-même. Du coup, non, c'est le principe, mais que tu t'es quelque part un peu dépassé sur ce trip en Amérique du Sud. C'est ce que tu étais capable de faire solo en fait.
Ouais, je pense que ça a commencé par une journée d'attente, 24 heures d'attente au bord de la route. En termes de dépassement, ça je l'avais jamais fait. Déjà, je pensais que j'étais impatient, mais bon, visiblement, j'ai attendu une journée sur la route, donc j'ai eu quand même un peu de patience. Mais surtout, c'était la journée où il a fait le plus chaud de mon voyage. Donc j'ai voyagé 7 mois au total, mais 4 mois full autostop. Et une journée, il a fait 38 degrés, c'était sur la côte atlantique en Argentine. Et la veille, le gars me dit, t'as attendu combien de temps au maximum sur la route? Et je lui avais dit peut-être 2h30. Et il a dit, ouais, c'est incroyable, moi j'avais fait un peu d'autostop dans ma jeunesse, j'avais déjà attendu une journée. Et je me suis dit, ouais, c'est fou, moi jamais j'attendrai une journée. Et le lendemain, je vais sur la route, je me pose, je me mets à des endroits stratégiques, comme d'hab. Et puis là, les voitures passent devant moi, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et puis avec la chaleur, c'était très compliqué. Il faisait 38 degrés, donc j'étais obligé de faire. Donc j'étais sur une sorte d'autoroute à ce moment-là et je devais faire des allers-retours à la ville d'à côté qui était à 40 km. Mais mon but, c'était quand même de prendre l'autoroute et de me barrer de l'endroit. Et ça marchait pas, donc pour me ravitailler en eau, je devais faire des allers-retours à la ville, revenir. Et puis le soir à 18 h, je retourne sur l'autoroute, il n'y a personne. Donc j'ai dû retourner à la ville et le lendemain j'ai dû attendre peut-être la matinée encore. Donc plus d'une journée d'attente sur la route. Et là je me suis dit, après quand la voiture m'a pris et que j'ai pu partir de l'endroit, ah, je crois que j'ai versé une petite larme. Mais je me suis, à ce moment-là, je me suis, c'était le premier vrai dépassement, je pense.
C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, je reçois beaucoup d'invités, des femmes et des hommes qui vivent, enfin, qui réalisent, quand ils parlent de dépassement, c'est à travers, c'est souvent du dépassement physique, tu vois, une grande expédition ou un accomplissement sportif. Mais en fait, en y réfléchissant, c'est pas une découverte là maintenant, tu vois, mais je pense qu'il y a, en fait, il y a plein de manières de sortir un peu de sa zone de confort, déjà dans son quotidien, et aller vers l'autre. Alors, pour toi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je sais que. À titre perso, tu vois, aller vers l'autre, faire du stop, pour moi, ça serait déjà un effort, tu vois. C'est clairement quelque chose que j'ai jamais fait et bon, qui spontanément, si on me donne le choix, m'attire pas plus que ça. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que bah voilà, à chaque fois, j'imagine que toutes les personnes que tu rencontrais, bah fallait aussi toi que tu fasses en sorte d'être un minimum aimable, amical, que tu racontes ton histoire, bref, que tu sois un minimum sociable, en fait. Et quand tu le fais plusieurs dizaines de fois, centaines de fois sur un trip, bah, il faut peut-être que tu mettes en place, je sais pas comment tu as fait pour gérer ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a une grosse différence entre les premiers stops, les premiers autostops que tu as fait et les derniers? Il y a eu une évolution de Julien en tant qu'autostoppeur?
Ouais, je pense qu'il y a une évolution. Déjà, quand je suis arrivé en Amérique du Sud, je parlais pas espagnol.
Ah ouais, c'est pratique ça pour l'autostop.
Ouais, je connaissais vraiment, j'avais que les bases. Et donc, j'avais mon petit dictionnaire. Et quand les gens me parlaient, je disais un momento. Et je regardais le mot que j'avais compris dans la phrase. Et ensuite, je répondais juste avec un mot. Mais c'était très, très sommaire. Et donc les gens me disaient, ok, t'es un peu barjot de vouloir voyager en autostop, tu parles pas la langue. Mais je pense que les gens étaient, enfin déjà ils étaient très gentils, ils m'expliquaient, bon, avec le langage des signes, on communique très bien. Et après en termes de raconter son histoire, bon bah disons que les 30 premières fois ça va, c'est pas trop répétitif, parce que si tu bouges d'endroit. Donc, tu as d'autres anecdotes à raconter un peu. Toujours la même base, c'est je m'appelle Julien, j'ai 24 ans, je suis français, etc. Et ensuite, tu peux raconter les dernières anecdotes qui te sont arrivées parce que il arrive énormément de choses en une journée d'autostop, vraiment énormément de choses. J'ai l'impression qu'en une journée de voyage en autostop, c'est l'équivalent de 4 ou 5 jours de la vie normale, de la vie courante, en termes d'intensité, d'expérience, de richesse, de rencontres. De découverte. Donc ça change beaucoup une journée d'autostop et par contre c'est vrai que peut-être, je sais pas, peut-être après la 50e fois ou 60e fois que je racontais mon expérience, enfin mon qui je suis, d'où je viens, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Limite parfois je disais juste je m'appelle Julien, je suis français et puis ensuite je changeais directement de sujet et toi tu fais quoi dans la vie, pourquoi t'es là? Parce que j'en avais marre de raconter à nouveau le truc.
Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué?
Alors, je pense une rencontre qui m'a grave marqué, c'est justement la journée où il a fait 38 degrés, là où je devais retourner à la ville. Il y a une voiture qui s'arrête, je vois qu'ils sont 6 dans une voiture à 5, mais ils me demandent quand même de rentrer dedans. Donc je me dis, ok, cool. Je rentre dedans, c'est une grande famille, et ils me disent d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Donc ouais, je raconte mon histoire. Et ensuite, ils m'amènent à la ville et ils me disent, nous, on habite à Elbolson, un village de l'autre côté du pays. Et je lui dis, ah bah, c'est cool, moi, je vais passer normalement dans un mois, enfin, bon, c'est très aléatoire dans combien de temps j'y serai, mais dans un mois environ, j'aimerais bien être là-bas. Et ils disent, ah ok, bah cool, quand t'es là-bas, dis-nous. et tu viens chez nous, on t'héberge. Donc, ok. Bon, on s'est rencontrés, on s'est parlé juste 5 minutes dans la voiture, donc faut prendre des pincettes avec ce qu'on s'est dit dans ces 5 minutes-là. Mais j'ai gardé en tête ce qu'ils m'ont dit. Et un mois s'écoule, j'arrive à Elbolson, et 2 jours avant, je leur dis, bon, j'arrive à Elbolson dans 2 jours, comment ça se passe ? Ils disent, viens chez nous, il n'y a pas de problème, on t'héberge. Et j'arrive dans cette maison, ils m'accueillent à bras ouverts, et... c'était une famille très très pauvre qui avait vraiment très peu et ils m'ont offert leur maison pendant 3 semaines. Ils m'ont hébergé, ils m'ont nourri. Bon, alors après, je payais la nourriture, je faisais des activités avec les enfants, on sortait tous ensemble, etc. Enfin, j'étais vraiment, je faisais partie de la famille et je suis resté 3 semaines chez eux. Et tout ça, ça vient de une voiture aléatoire lambda qui me prend. On passe 5 minutes ensemble à l'autre bout du pays et un mois après, j'arrive chez eux.
Excellent. Est-ce qu'il y a une situation en particulier qui t'a vraiment marqué dans ce voyage
Je pense que l'anecdote qui m'a le plus marqué du voyage, un des vraiment temps forts, grand moment d'intensité, c'était quand j'étais à El Chalten au sud de l'Argentine. J'étais en train de faire un trekking et avant je partais toujours sans carte, vraiment sans orientation. Je pense un peu par inconscience. Mais je m'étais dit, bon, bah là, ça va passer aussi normal, quoi. Ça fait quelques trekking que je fais, ça se passe toujours bien. Soit en suivant les cairns, soit c'est bien indiqué. Donc là, je pars. C'est un trek qui s'appelle la Vuelta Huemul, qui est assez connu dans le monde et qui est sur 4 jours, 4 jours autonomie totale. Aucun ravitaillement, rien du tout. Et donc, je pars tout seul avec mon sac à dos. C'est sur 4 jours, ça fait, je crois, 70 km, quelque chose comme ça. Premier jour se passe bien. Je fais un petit détour en plus, je rajoute 15 km, je fais un petit détour et puis je tombe dans la forêt sur un boîtier qui recense les pumas. C'est un boîtier vision nocturne de pumas. Et je vois ce boîtier-là et on m'avait dit déjà il y a des pumas en Patagonie, mais pour moi c'était très éloigné de la réalité. C'est un peu comme il y a le monstre du Loch Ness, on a déjà vu un puma en Patagonie. Pour moi c'était à peu près ça. Donc à ce moment-là, la réalité du puma prend place dans ma tête et je me dis, punaise, s'il y a un détecteur de puma, ça veut dire que doit y avoir des pumas. Et donc là, j'entends des bruits, je me dis, bon, c'est un puma. Je commence à me faire flipper tout seul. Le premier jour se passe, deuxième jour aussi. Alors, le trek, c'est incroyable parce que tu marches sur un glacier et c'est le troisième glacier plus grand au monde. Ça s'appelle l'Intercontinental Soul, Yellow Soul. Et c'est donc tu marches sur le glacier littéralement le deuxième jour. C'est vraiment magnifique, très impressionnant. Troisième jour, tu passes des cols. Et le troisième jour au matin, je me réveille, je commence à partir vers 9h30 du campement. Et là, il y a un gars qui arrive avec un tout petit sac à dos. Et je le regarde et je lui dis, tu viens d'où ? Et il me dit, bah là, je viens d'El Chalten. J'essaye de faire la Vuelta Huemul en un jour, alors que normalement c'est sur 4 jours. Et donc déjà, le gars peut pas me mentir parce qu'il n'a pas pu dormir ici. Il fait moins de zéro la nuit et il a un tout petit sac à dos avec des snack bars et de l'eau à l'intérieur. Donc je me dis, waouh, ce gars est complètement dingue. Et il essaye de faire le trek de 4 jours en un jour. Et il est parti ce matin à 4h30. Là, à 9h30, il était à la moitié du trek. Et il me dit, normalement, j'arrive ce soir à 18h. Donc, super inspirant. Je me dis, ok, bah, vas-y, c'est parti. Moi, je vais essayer de faire la moitié du trek, vu qu'il me reste 2 jours. Enfin, 2 jours normalement. Je vais essayer de faire la moitié, rentrer directement à El Chalten, comme lui le fait. Et dans ma tête, là, je passe en mode de Kylian Jornet. Je me prends pour un ouf. Je marche super vite. Je passe devant tout le monde. Donc, c'est un peu au détriment des paysages. Mais j'arrive au troisième campement assez rapidement. Et je me dis, bon, bah, je ne dors pas la soir, allez, je rentre au village. Et à ce moment-là, je commence à perdre les traces. J'avais déjà perdu une fois la trace 2 jours avant, et j'allais limite traverser une cascade. Et finalement, il y avait un gars 300 mètres au-dessus qui m'a vu et qui m'a crié, non, c'est par là, il faut que tu montes. Et moi, je continuais tout droit sur le glacier. Et là, je m'étais dit, bon, il faut faire attention, tu peux te perdre quand même. Et là, au troisième campement, je suis un cairn, comme d'habitude. Et là, je commence à me perdre. Et donc, je marche et je suis dans une vallée. Je suis entre deux montagnes. Je suis en train de marcher. Je marche, je marche, je marche. Ça fait peut-être 1h30 que je marche. Je sais très bien que je suis totalement perdu. Mais à tout moment, je peux faire demi-tour parce que comme j'étais en train de monter, je voyais le lac derrière moi qui s'appelle le lac Biedma. Je le voyais, donc je pouvais toujours retourner là-bas. Mais je me suis dit, normalement, El Chalten, c'est tout droit. Donc, je vais aller tout droit. Et comme j'ai pas de map, j'ai aucun truc pour m'orienter, fallait que je garde quand même le lac Biedma, sinon j'étais absolument perdu. Alors, je continue, j'escalade des montagnes à droite à gauche. Là, ça fait 3-4 heures que je me suis paumé. Et je commence à paniquer un peu et je me dis, bon, c'est pas grave, au moins je gagne de l'expérience en montagne, parce que je commençais un peu à faire des grands treks. Je me dis, je gagne de l'expérience en montagne. Et je suis avec ma casquette, je suis en train de monter une petite colline, je lève la tête et là, face à moi, à 5 mètres devant moi, il y a un puma avec ses deux petits. Et il me voit directement, il y a le petit qui prend peur et qui se barre vers moi, mais en diagonale vers moi, à la fois vers moi, à la fois pour se barrer. Et tu sais, les pumas, dans ma tête, en fait, la première pensée que j'ai, c'est « Ah oui, un puma, en fait, c'est pas noir. » Moi, le puma, j'avais image de panthère noire dans ma tête. Et là, je vois je vois l'animal beige et le petit avec des petites taches noires sur le dos. Et je me dis « Ah ouais, c'est ça, un puma. » Et là, je me dis « Putain, puma. » Et je tourne, et le puma me voyait, on se regardait. Je tourne immédiatement les talons, je fais demi-tour, je marche. Et il y avait à la fois un sentiment de « Waouh, c'est grave la merde. Je suis dans l'environnement du puma, dans la situation la plus dangereuse dans laquelle tu peux être normalement, c'est quand il y a la mère puma et qu'il y a ses petits à côté et qu'elle pense que tu vas l'attaquer, donc qu'elle veut protéger ses bébés. Sinon, normalement, en général, un puma, ça ne s'approche pas des humains. Et en général, les humains ne s'approchent pas des pumas non plus. Mais là, on s'est retrouvés face à face, situation la plus dangereuse pour moi. Donc, je me suis dit « Ok, c'est très chaud, il faut que je marche. » Mais il ne faut pas que je cours non plus. Et de l'autre côté, j'avais l'impression on était tellement surpris de se voir l'un l'autre qu'elle n'allait pas m'attaquer, que ça allait bien se passer. Et là, je me suis dit, OK, la pluie commence à arriver très très fort, il faut juste que je m'éloigne de la forêt des pumas, je ne dors pas à côté d'eux. Mais d'un autre côté, tout l'environnement dans lequel j'étais prend une autre tournure parce que je me dis, s'il y a des pumas là, je ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent être non plus. Et là, je suis vraiment solo et je suis perdu. Donc, je me suis éloigné, j'ai trouvé un petit cours d'eau, j'ai posé ma tente. Et puis, le lendemain, j'ai fait demi-tour et je suis retourné au lac Biedma. Ça m'a pris 4 heures. Et c'est la première fois, le premier soir où j'ai dû poser ma tente en urgence, tellement il a plu. C'était le premier bivouac de secours. Et j'arrive au lago Biedma, le lendemain matin, je me pose. Devant le lac, en fait, c'est trop bizarre, mais devant le lac, je commence à pleurer parce que je me dis que ma vie est plus en danger et que s'il faut, je pourrais boire tout l'eau du lac et que je mourrais pas comme ça. Et il y a un gars qui arrive, il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu pleures? Je raconte l'histoire, je me suis perdu, j'ai vu le puma. Et il dit ouais, trop de la chance, moi aussi je veux voir un puma. Et ensuite, j'ai raconté cette histoire à d'autres personnes qui m'ont dit ouais, trop de la chance aussi pour le puma. Mais en fait, trop de la chance, c'est marrant de le raconter maintenant. Mais quand tu vois le puma et que tu es dans son environnement, là, c'est un peu différent. C'est vraiment différent. Et finalement, on rentre à El Chalten avec cet Allemand-là. Je sors mon téléphone, je suis en extase, en fait, de revoir des gens, de revoir des cafés. Enfin, tu sais, tu penses à tous les trucs que tu pouvais perdre. Et je sors mon téléphone et en fait, le premier jour, juste après avoir vu le boîtier du puma accroché, j'avais sorti mon téléphone et j'avais écrit une question à laquelle répondre quand je reviens au village, c'est que faire face à un puma ? Parce que je ne savais pas quoi faire face à un puma. Quand j'ai vu le boîtier, le puma est devenu réalité, donc je me suis dit « Ok, je vais chercher en rentrant ». Et là, j'arrive dans le café et après avoir vécu tout ça, je vois ça et j'explose de rire sur mon téléphone. et pour clôturer ça, donc finalement j'ai tapé sur internet que faire face à un puma et c'est l'inverse de ce que j'ai fait. Il faut pas lui tourner le dos, faut garder le eye contact, faut paraître plus grand qu'on est pour l'impressionner, reculer petit à petit en le regardant dans les yeux et surtout s'il est avec ses enfants, ne pas l'approcher. et là, je me suis dit, bon, j'ai fait la totale, j'ai fait l'inverse, mais ça s'est bien passé.
Excellent. Bah, écoute, super anecdote. Pour revenir à ce que tu disais un peu plus tôt sur cette famille qui t'a accueilli chez elle pendant 3 semaines, tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi, ça m'amène à la réflexion suivante, en fait. Souvent, j'ai l'impression la générosité des gens qui ont rien, en fait, ou pas grand-chose par rapport à nous d'un point de vue matériel ou d'un point de vue moyen financier. Et ce que tu dis, ouais, j'ai un peu l'impression que c'est ça que ça illustre, en fait.
Mmh. Ouais, ouais, carrément. Il y a une phrase qui m'a trotté dans la tête énormément pendant mon voyage, c'est « ils ont rien, mais ils donnent tout ». Et cette phrase revenait. Et alors, la majorité des gens en autostop sont des gens qui ont moins de moyens, parce que j'ai l'impression qu'ils, d'un côté, ils ont moins à perdre, et d'un autre côté, il y a une générosité qui est peut-être plus développée chez eux. Mais bon, sur les 160 voitures qui m'ont pris, j'ai vu quasiment tous les métiers possibles et tous les horizons possibles aussi. Il y a aussi des gens très très riches. Il y avait une ancienne personne du gouvernement argentin qui m'a pris en autostop et qui m'a invité chez elle, dans sa famille. Donc voilà, il y a aussi tous les horizons.
Comment ton entourage, tes potes ont réagi quand tu leur as dit que tu partais en Amérique du Sud faire de l'autostop ?
Je crois que je ne l'ai pas dit. Je crois que je ne l'ai pas dit. Alors, ma mère a pris du temps à accepter que je fasse de l'autostop déjà en France et en Europe. Mes potes m'ont dit « Mais c'est bizarre, pourquoi tu fais de l'autostop ? Pourquoi tu ne veux pas prendre un bus ?» Et je leur disais « Je ne trouve pas ça très marrant, le bus, en fait. Dans le bus, tu te poses, tu vas d'un point A à un point B, tu es sûr d'y arriver, normalement à l'heure. » Mais il y a quasi aucune interaction dans un bus. Et moi, ce que j'aime dans l'autostop, c'est l'interaction, l'échange, c'est l'aventure aussi, c'est de pas forcément arriver à un point B, mais en fait, tu passes par toutes les lettres de l'alphabet avant d'arriver à un point B, tu te poses 2 semaines dans un village alors que tu voulais arriver plus tôt. C'est cet aléatoire, c'est cet imprévu que j'aime. Et donc, je pense pas que je leur ai dit, mais j'ai commencé à faire de l'autostop là-bas, je leur ai envoyé 2-3 photos, 2-3 vidéos. Et puis ensuite, ils se sont vite rendus compte que l'Amérique du Sud, c'est beaucoup moins dangereux que ce qu'on pense, surtout l'Argentine. Là, tout le monde a été un peu rassuré, moi compris, clairement. L'autostop a clairement bien fonctionné, donc j'ai continué comme ça. Et puis voilà.
Est-ce que tu dirais qu'au bout de... Combien de voitures t'ont prise au final, 160 ?
Ouais, à peu près 160 sur les 4 premiers mois. Et ensuite, j'ai refait du stop en Argentine et en Bolivie. Donc, 175 au gros total.
Ok. Donc, ça fait un paquet de rencontres avec de parfaits inconnus. Tu dirais que t'as affiné tes capacités de lecture de personnalité, tu vois, ou de décryptage de l'homme avec un grand H au fil de ces rencontres. Est-ce que t'étais capable de dire, voilà, cette voiture, je pense que ça va être une conversation absolument géniale, ou au contraire, là, je le sens pas trop, je décline, tu vois. Vraiment en te basant sur, tu sais, ce fameux gut feeling.
Ouais. Je pense que oui, mes capacités d'analyse ont évolué, ouais, clairement. Après, je pense que j'ai vu un tel panel de personnes différentes sur 175 personnes. Parfois, il y avait une personne, parfois deux, parfois plusieurs, parfois il y avait même toute une famille dans la voiture. Mais c'est très variable. En général, on arrive quand même à bien sentir les gens. C'est pour ça, une des choses les plus importantes pour moi en autostop, c'est son instinct. C'est par exemple, cette voiture, je la sens pas. La personne vient de s'arrêter devant moi, mais je vois le gars, je vois l'état de la voiture. Il y a ma petite voix en moi qui me dit « Non, ne monte pas. Vaut mieux écouter cette petite voix dans ces cas-là. » Mais en général, on arrive à bien sentir les gens. On arrive après savoir qui va nous inviter chez lui ou pas. Non. Et puis parfois, il y a des rencontres un peu bizarres aussi.
Je sens qu'il y a l'anecdote là.
Ouais, il y a des rencontres un peu bizarres.
Il y en a une en particulier qui t'a marqué, que tu peux partager ?
J'ai pas eu d'accident. Sur 160 voitures, j'ai pas eu d'accident. Je me suis pas fait voler mes affaires non plus. Je connais des gens qui se sont fait voler leurs affaires en voyageant en autostop. Moi, ça allait. C'était surtout des... Donc, bon, alors par exemple, j'arrive à pas très loin du Ushuaïa. Et j'avais élaboré un peu des techniques pour faire l'autostop, donc pas seulement lever le pouce, mais par exemple, je faisais l'équilibre sur la route et je calculais la distance avec la voiture qui arrivait. Je faisais l'équilibre, je m'arrêtais avant que, bien sûr, elle arrive. Et ensuite, je me mettais sur le côté, je levais le pouce, grand sourire, en faisant un peu le clown, tu vois, pour les divertir. Et donc, je fais ça. Et il y a un camionneur qui klaxonne, ça le fait rire, il s'arrête. Je monte dans le camion. Et la cabine est impeccable. Ça fait très Dexter. Il n'y a pas un cheveu, ça sent bon, ça sent le parfum. Tout est super clean. Et le mec a les yeux à moitié fermés. Donc je me dis, ok, bon, il doit être fatigué ou je ne sais pas quoi. Discussion normale, on se présente, il me dit, où est-ce que tu vas? Je lui dis, bah, objectif Ushuaïa. Et il me dit, ok, pas de souci, quand on arrive là-bas, on boit du Fernet. Et le Fernet, c'est l'alcool local, qui est très fort. Et je lui dis, ouais, bah, il n'y a pas de souci, en fonction de l'heure, on pourra voir. Et il me dit, non, non, moi, je boirais une bouteille de Fernet là-bas. Et je dis, bon, ok, d'accord. Et il me répète ça, et il me dit, non, mais je viens de boire une bouteille de Fernet là. Et je lui dis, attends, tu viens de boire comme si tu avais bu une bouteille de vodka juste avant de conduire un énorme poids lourd. Et il me dit, ouais, je viens de boire. Et je me dis, waouh. Alors là, je me suis dit, instinct, attention, faut sortir du camion direct. Et on avait peut-être 100 km à faire ensemble encore jusqu'à la frontière chilienne. Et je me suis dit, putain, faut que je trouve un moyen de sortir du camion parce que là, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Il me dit, non, t'inquiète, ça va. J'ai l'habitude de boire et j'ai l'habitude de conduire. Et je connais très bien cette route. Et je me suis dit, non, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Et finalement, on arrive au poste frontière. Il me dit, bon, ok. Alors, moi, j'ai pas le droit de prendre des autostoppeurs. Donc, tu sors de ton côté, tu marches, tu passes la frontière. Moi, je passe avec le camion. Tu refais du stop de l'autre côté. Je te reprends, on part. Je lui dis, ouais, t'inquiète. Je prends mon sac, je passe la frontière, je fais du stop directement après. Et heureusement, il y a une voiture qui me prend directement. Et puis ensuite, j'ai plus revu ce camionneur très chelou. Mais je voulais plus jamais remonter dans son camion, c'est clair.
Je crois que c'est le, tu vois, l'aspect de l'autostop, moi, qui me freinerait le plus, c'est finalement que tu te confies un peu à des inconnus, en fait. Il y a quand même une grosse part de lâcher prise, non? Quand tu dépends finalement de l'autre.
Tu dépends de l'autre. D'un côté, tu dépends de l'autre, et de l'autre, tu es extrêmement indépendant parce que, donc, avec la tente, par exemple, tu peux dormir au bord de la route, que quelqu'un te prenne ou pas. Et par exemple, dans ma tête, avoir un vélo ou une voiture, c'est avoir une certaine attache. C'est pas être totalement indépendant. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, donc tu es dépendant de la rencontre, en fait. Tu choisis pas qui tu rencontres. Par contre, tu peux en général choisir à quel moment la rencontre se termine, à part si tu es kidnappé. Bon, c'est horrible, mais ça m'est jamais arrivé. Bon, il y a juste eu ce gars-là. Après, bon, si je peux enchaîner avec l'anecdote, parce qu'en fait, c'est deux anecdotes bizarres qui sont enchaînées dans la même journée. C'est que je prends le ferry ensuite, donc je fais de la frontière chilienne jusqu'à prendre un ferry, et dans le ferry, je dois changer de voiture. Et je demande aux gens du ferry, à une famille, et ils me disent un truc par rapport à leur voiture qui est cassée, je comprends pas trop. Donc je dis bon, ok, je continue de demander dans le ferry, et personne me dit ok. Donc à la sortie du ferry, la nuit commence à tomber, là on est tout au sud du Chili, il commence à faire très froid. Et je me dis, bon, flemme de dormir quand même au bord de la route, je donne tout, je fais du stop. Là, la famille du ferry s'arrête et je vois que deux voitures sont juste côte à côte, enfin se suivent, avec une corde de 1,5 m qui raccroche la deuxième. Et le mec me fait un signe et me dit, vas-y, monte. Et monte dans la deuxième. Donc, il y a la famille qui est en train de conduire la première voiture et moi, je monte avec le père dans la deuxième voiture derrière qui est raccrochée à une corde à la première. Où le moteur ne fonctionne plus. Il y a juste les freins qui fonctionnent. Et on commence à faire le trajet comme ça. Et je commence à comprendre très rapidement la situation dangereuse dans laquelle je me suis mis à nouveau en quittant le conducteur bourré. C'est que ils conduisent à 80-90 km heure. Et 1,5 m de corde, c'est très très court en termes de réaction de frein. Il faut que tu sois très très rapide. Quand la voiture de devant freine, il faut que tu freines immédiatement après. Mais si tu freines trop fort, en fait, il y a un à-coup. Tu sais, tu as une réaction physique avec la corde où tu vas avancer et ensuite, comme tu freines, tu recules derrière. Et donc, c'est super dangereux. En fait, c'est juste extrêmement dangereux. À chaque fois qu'il freinait, on arrêtait de parler avec le père derrière parce qu'on s'est dit, ben là, c'est la fin. Moi, je me suis dit, pourquoi je quitte le chauffard bourré de ce matin et je me retrouve dans cette situation à nouveau? Et le pire, c'était dans les descentes parce qu'on était plus lourd, notre voiture était plus lourde que la première, donc on allait plus rapidement. Et donc, il fallait qu'on freine et en même temps, on était tiré par la première voiture. Et ce mécanisme a duré pendant 1h30. Finalement, après 1h30, on arrive chez eux. Et c'était eux, la famille de diplomates argentins, là, très riches finalement, qui m'ont invité 2 jours chez eux. Et bon, ça s'est bien terminé, il n'y a pas eu d'accident.
Ah, les anecdotes de voyage. Il n'y a que dans ce genre d'aventure que tu peux vivre des trucs pareils, je pense. D'un point de vue paysage, parce que j'ai eu la chance de faire un petit séjour en Amérique du Sud pendant 6 mois, mais j'ai fait Pérou, Bolivie, Colombie, mais pas le Chili et l'Argentine, et c'est un peu un grand regret. Qu'est-ce que tu as découvert? Parce que c'était la première fois finalement que tu allais en Amérique du Sud.
C'était la deuxième fois. J'étais déjà allé en Bolivie, mais j'avais fait un court séjour en Bolivie, okay. pas très route. Mais...
D'accord, ok. Ouais, là, c'était plutôt route et, ouais. et plus long. Ouais. Donc, t'as découvert quoi comme paysage là-bas?
Je pense que le premier truc qui m'a marqué, c'est la Pampa. On dit, tu sais, ensuite, il y a eu l'expression la Pampa. Mais en fait, la Pampa, c'est littéralement une région d'Argentine très grande où il y a littéralement rien du tout. Il y a 2-3 petits buissons, il y a des bœufs, mais vraiment très éparpillés sur des centaines et des centaines de kilomètres. Et il y a vraiment rien. Donc, c'est pas la région la plus intéressante d'Argentine, mais c'est la première qui m'a marqué parce que parfois j'étais lâché au milieu de la Pampa, littéralement, et j'attendais. Et là, je me suis dit, mais s'il y a personne qui prend, la ville d'après doit être à 120 km. J'ai pas assez d'eau, il n'y a pas de fleuve, il n'y a rien du tout, aucun cours d'eau. Donc là, ça va être la galère si je suis lâché là. Mais d'un autre côté, j'étais dans la nature, j'étais submergé dans la nature, c'était génial. Il y avait pas un chat, il y avait grand silence, donc le calme absolu, ça c'était génial. Et après, arrivé à la Cordillère des Andes, là c'était magnifique. C'est des énormes montagnes. Tu vois, il y a à 4850 mètres en Europe, on est au Mont Blanc. Là-bas, 4800, c'est pas grand-chose. C'est les 5000, ça se touche rapidement. Donc, il y a des paysages, des montagnes vraiment incroyables. Et après, côté argentin, côté chilien, c'est très différent. Côté argentin, c'est plus sec. Et côté chilien, la même Patagonie, c'est beaucoup plus de verdure, beaucoup plus de forêt. Parce que tu as l'humidité du Pacifique qui arrive et qui donne tout à la Patagonie côté chilienne. Et ensuite, avec la Cordillère, les montagnes de la Cordillère, ça bloque les nuages. Et donc, il y a très peu d'humidité du côté argentin. Donc, il y a quand même cette grande différence argentin-chili. Argentine-chili.
Ok, super intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait des paysages aussi différents en fait, entre le Chili et l'Argentine. J'aurais appris un truc, tu vois, inattendu. Ok, et l'arrivée à Ushuaia, du coup, est-ce que... C'était un objectif qui avait une symbolique forte pour toi, Ushuaia, tu vois, le bout de l'Amérique du Sud, ou finalement pas plus que ça, et parce que tu savais que derrière il y avait le reste du trip qui t'attendait.
Ça avait quand même une petite symbolique, parce que quand je suis arrivé à Ushuaia, en fait, jusqu'à descendre à Ushuaia, je me suis dit objectif Ushuaia. Quand je suis arrivé à Ushuaia, je me suis dit premier grand objectif atteint de mon trip. Et quand je suis reparti ensuite, je me suis dit où est-ce que je vais aller. Après, c'est objectif quoi? Parce que j'ai atteint le premier objectif, c'est-à-dire la ville la plus au sud du monde. Alors, petite parenthèse, c'est pas le point le plus au sud du monde, parce qu'il y a un village qui s'appelle Puerto Williams, qui est du côté chilien, pas argentin. Ushuaia, c'est côté argentin. Et Ushuaia dit on est le point le plus au sud du monde, mais c'est faux. Je voulais juste rétablir cette petite parenthèse. Par contre, c'est la ville la plus au sud du monde, ça c'est vrai.
Okay.
Et donc, grande symbolique, ouais, c'est vrai, il y a les shampoings Ushuaia que j'utilise de temps en temps. Non, mais c'est vrai que c'était une grande symbolique. Et arrivé à Ushuaia, alors c'est marrant, je rencontre une fille dans une auberge de jeunesse qui me parle un peu de son voyage et qui me dit qu'elle a fait... Elle a fait un peu de stop et que c'était la première fois et qu'elle a kiffé. Ensuite, elle me raconte avec un camionneur qui l'a pris en stop. Et ensuite, elle me dit, et toi, comment t'es venu? Et je lui dis, pareil, en autostop. Et ensuite, je lui raconte d'où je suis venu. Je suis parti de Buenos Aires. Ça fait 2 mois que je descends l'Argentine. et elle me dit, oh là là, je suis bête, excuse-moi, je me suis vanté d'avoir fait 3 voitures en autostop, mais là, t'as 100 voitures t'ont prises en autostop. Et je dis, non, t'inquiète, c'est toujours intéressant d'entendre les anecdotes des autres. Et là, c'était marrant quand elle m'avait raconté ça. Et après, bah oui, après partie du Ushuaïa, ensuite, je suis allé au Chili. Je suis allé en Chili.
Je suis sur Maps, là. Effectivement, Puerto Williams, tu vois, je ne connaissais pas, est bien plus au sud que Ushuaïa. Donc, intéressant. Ils ont quand même un aéroport, hein. C'est un petit truc, mais il y a quand même une piste. Enfin, un aéroport, ouais. Ça va être un hangar avec de quoi se ravitailler. Ouais. Intéressant. Ok. Ok, ok. Et du coup, une fois à Ushuaïa, comment tu l'as organisé le trip ? Est-ce que c'était très clair pour toi les étapes par lesquelles tu voulais passer, les délais que tu te fixais ? Ou est-ce que voyager en autostop, c'est aussi accepter le fait que faut gérer l'inconnu la plupart du temps et donc s'adapter en permanence ?
Ouais, c'est carrément ça. je pense que j'ai fait un peu des deux. Mon premier truc, c'est de pas prévoir. Parce que j'ai remarqué en général dans ma vie que quand je prévois des choses, ça se passe pas du tout comme ça. Donc je me suis dit, là le premier objectif c'est découvrir l'Argentine, découvrir le Chili, partager des histoires, aller dormir chez des gens aussi, aller dormir chez l'habitant. Moi je voulais voir comment ils vivent, comment ils dorment, comment ils vont au travail, etc. Et bon, après, je me suis dit que j'allais faire ça en stop, donc ça a rajouté beaucoup d'aléatoires. Au début, je voulais partir de Buenos Aires, prendre un bus de Buenos Aires pour sortir de la ville, parce que impossible de faire du stop à Buenos Aires, c'est très dangereux. Donc sortir de Buenos Aires comme ça, et ensuite faire le trip donc jusqu'à Ushuaïa, descendre toute la côte, descendre les Andes, arriver à Ushuaïa et remonter par le Chili. Ça, c'était les grandes lignes que j'avais dans ma tête. Et après, ouvert totalement à la rencontre, aux gens, au fait de dormir au bord de la route, au fait que ce soit très aléatoire comme ça.
Tu disais que ce qui t'avait motivé, tu vois, dans ce mode de voyage, c'est principalement la rencontre de l'autre, un peu le budget, mais principalement la rencontre de l'autre. Tu dirais que... Comment est-ce que ton regard, du coup, sur, ou en tout cas ta compréhension, tu vois, de globalement la manière dont les gens vivent en Argentine et au Chili, comment est-ce que ça a évolué par rapport peut-être à des a priori, pas au sens péjoratif, mais des préconceptions que tu avais ? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu en as retenu ? Qu'est-ce que tu as découvert au contact de ces quasiment 200 personnes qui t'ont récupéré sur le bord de la route ?
Ouais. Déjà, en Argentine, Argentine et Chili sont des pays, pour moi, développés. C'est pas des pays en développement. C'est-à-dire que leur mode de vie se rapproche vachement du nôtre quand même, en France et en Europe en général. Après, actuellement en Argentine, il y a une énorme inflation, donc ça coûte, par exemple, un jour en France, avec autant d'argent que tu peux vivre un jour en France, tu peux vivre 3-4 jours en Argentine, à peu près, sans faire trop d'excès. Donc il y a quand même cette différence avec les locaux, on n'est pas totalement considéré comme des locaux quand on arrive là-bas, on a un très fort pouvoir d'achat. Mais en vivant chez les gens, je me suis rendu compte, déjà c'était incroyable d'être plongé dans ces univers. Chaque famille est différente. Il y a à peu près 4-5 familles qui m'ont hébergé, disons, sur le long terme, c'est-à-dire sur, disons, plus de 3 jours. Et d'être immergé dans ces familles différentes, ça m'a apporté beaucoup de richesse de voir leurs habitudes, comment ils élèvent leurs enfants. Alors, je ne comprenais pas toutes les discussions parce que j'ai appris l'espagnol là-bas, donc au fur et à mesure, je comprenais de plus en plus. Mais quand même pas tout, hein. Clairement, voilà. Mais je voyais comment ils éduquaient leurs enfants, qu'ils utilisent... En fait, c'est un pays développé. C'est vraiment, quand tu arrives au supermarché, tu as une grande diversité de produits, enfin, moins qu'en France, mais tu as quand même une grande diversité de produits. Au marché, pareil. Dans un village, il n'y a rien qui manque. On a tout ce qu'il faut. Et après, en termes de sécurité... J'ai eu un grand choc. Pour moi, l'Amérique du Sud, et ensuite particulièrement la Colombie, ensuite, quand j'y suis allé, pour moi, Amérique du Sud, c'était danger, narcotrafiquant, drogue. Et en fait, quand tu arrives là-bas, c'est à l'opposé de ça. C'est vraiment très, très loin. L'Argentine, pour moi, l'Argentine, c'est plus safe que la France. Je me sens plus en insécurité en France qu'en Argentine. En Argentine, pas à un seul moment, j'ai eu peur. Pas à un seul moment, je me suis dit, oula, c'est chaud. Donc, de ce préjugé que j'avais et que je pense que beaucoup, beaucoup d'Occidentaux ont sur l'Argentine, enfin, sur l'Amérique du Sud en général, enfin, en termes de sécurité, déjà, ce truc-là est parti.
Et ça, tu penses que c'est une lecture objective des choses ou est-ce que tu penses que peut-être comme tu n'avais pas les codes, tu as pu parfois juste pas te rendre compte que c'était potentiellement un peu craignos, tu vois, les endroits où tu étais. C'est une vraie question, y a pas de question secondaire en filigrane, hein, c'est une vraie question curieuse.
Je pense que j'ai une bonne capacité d'analyse et de lecture des gens et de lecture des situations aussi. Et particulièrement en étant en autostop, en étant au bord de la route, donc en étant vulnérable, vraiment vulnérable, c'est-à-dire une personne avec des mauvaises intentions peut m'amener dans un endroit alors que bah, je suis dans sa voiture et je peux rien faire. À aucun moment ça n'est arrivé ça. À aucun moment j'ai eu une once de cette situation est dangereuse. Même quand je me baladais dans la ville, même quand je rentrais du resto le soir ou de n'importe quoi, je me suis dit non, en fait, je sens pas le danger, je sens vraiment pas le danger. J'ai rencontré pas mal d'autres personnes, pas mal d'autres voyageurs qui m'ont dit la même chose. Alors, Brésil, Colombie, un peu plus chaud, mais Argentine, Chili, vraiment très chill, vraiment sécurisé, quoi.
Ok, intéressant comme retour. Ok. Du coup, la deuxième partie du voyage, donc tu disais, t'es remonté jusqu'en Colombie, c'est ça, par le Chili.
Je suis remonté jusqu'au nord de la Patagonie, Argentine, pas jusqu'en Colombie, jusqu'au nord de la Patagonie, Argentine, en passant par le Chili, la majorité du temps par le Chili. Ouais.
Ok. La Colombie, donc c'était le trip précédent quand t'avais fait la Bolivie aussi.
Ensuite, après la fin de l'aventure en autostop, j'ai commencé à prendre des bus. Parce que je me suis dit, là, si je continue en autostop, il me reste peut-être 3 mois de voyage. Je vais passer 2 mois sur le bord de la route. Donc, si je veux profiter un petit peu de la chance que j'ai d'être en Amérique du Sud, je vais commencer à prendre des bus et puis je vais changer d'objectif, un peu changer de mentalité de voyage.
Et il y a eu une phase d'ajustement, du coup, quand tu es repassé à un mode de voyage un peu plus classique, en tout cas contemporain.
Ouais, carrément.
Sur le rythme.
J'étais un peu dans le bad, j'étais pas très bien parce que j'étais dans des auberges de jeunesse avec des étrangers, alors qu'avant j'étais quasi tout le temps avec des locaux. Et là je me suis dit en fait je suis peut-être en train de perdre l'authenticité du voyage et l'authenticité des gens que je rencontre de véritablement vivre la culture avec les locaux, mais plutôt de passer de l'espagnol à parler anglais avec les internationaux et puis rencontrer des gens qui me ressemblent un peu plus entre guillemets déjà dans la manière de voyager d'où on vient et de moins voir l'authenticité du pays. Donc là, petit coup de bad quand je me suis mis à changer de mode de voyage. Et puis c'est pour ça que j'ai repris le stop un peu. Au Pérou, j'ai repris le stop parce que j'avais envie de reparler avec des locaux, quoi.
C'est là où tu m'avais raconté, il me semble, au Pérou, l'autostop, c'est pas vraiment dans la culture. Ça, ils considèrent que si ils te prennent en voiture, tu dois payer.
c'est ça. Ouais, c'est, pour moi, c'est pas dans la voiture, c'est pas dans la culture de faire de l'autostop. Première voiture qui me prend au Pérou, je suis au bord de la route, le mec s'arrête et je me dis, ouais, super. Donc, déjà. À chaque fois que je changeais de pays, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit, si ça se trouve, là, le stop, ça a marché jusqu'à maintenant, mais ça ne va plus marcher. C'est tellement aléatoire qu'un jour, tu arrives, tu es pris directement, et puis le lendemain, tu attends un jour. Et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais on ne sait pas. Il n'y a vraiment pas de science, quoi. Et donc, la première voiture, le gars s'arrête. Le courant passe super bien. Moi, je viens de découvrir le Pérou, je viens d'arriver. Donc, il me parle des cultures, il me fait goûter on s'arrête dans un bar ensemble, il me fait goûter un jus de maïs sucré, et je me dis, ouais, c'est super bon. Et puis ensuite, je lui dis, bon, bah voilà, moi, je m'arrête là, nos chemins se séparent. Et il me tend la main, il me fait mon argent. Et je lui dis, comment ça? Il me dit, mon argent pour le trajet. Et je me suis dit, waouh, ok, trop bizarre. Donc, je sais pas, je vais passer peut-être 5 soles, qui équivaut à 1 euro. Et ensuite, le gars dit merci, il se barre. Et je demande à la restauratrice, Est-ce que c'est normal ça? Elle me dit ouais, c'est normal, il faut que tu demandes à chaque fois avant d'entrer dans une voiture si tu vas payer ou pas, parce que ici rien n'est gratuit. Et je me suis dit waouh, donc en fait, si je veux continuer à faire du stop ici, il faut que je demande à chaque fois, mais donc si je demande avant d'entrer dans la voiture, ça établit une relation directe d'argent, ça a une relation commerçante. Et moi, c'est quelque chose que j'adore dans l'autostop, c'est que normalement, il n'y a pas de relation commerçante. C'est une relation beaucoup plus sincère. Il n'y a pas d'argent entre les deux protagonistes. Et donc là, direct, ça met de l'argent dans la relation. Et je me suis dit, bon, bah, je ne suis pas sûr de vouloir ça, parce que ce n'est pas l'autostop que je connais. Et finalement, donc à chaque fois, je demandais, quand j'étais au Pérou, peut-être 60% disaient oui, je te fais payer. Je disais, bon, bah, dans ces cas-là, non, salut. Et 40% disaient, non, non, t'inquiète, je t'avance tranquille.
Ok. Intéressant. Tu dirais que ce voyage, comment est-ce qu'il a changé peut-être ta manière de voir les choses quand t'es revenu en France, pour le coup? Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de revoyager peut-être en France, en Europe, depuis ton trip en Amérique du Sud. Mais si c'est le cas, je suis aussi curieux de savoir, tu vois, est-ce que tu as voyagé différemment? Est-ce que tu as cherché à voyager différemment? Ou pas nécessairement.
Je suis rentré mi-août de mon voyage. Ça a été un choc au fur et à mesure. J'ai eu le coup de down. J'ai eu le coup de down au fur et à mesure. Je passe de 7 mois de voyage exceptionnel, très indépendant, très libre, dormir, enfin camper où je veux dans n'importe quel endroit, à revenir avec des normes. Société française, c'est quand même très normé, je trouve, et Europe aussi.
Sachant que tu es revenu en France ou à Berlin directement?
Je suis revenu en France et ensuite je suis allé à Berlin. Je suis
Ok.
allé à Berlin début septembre. Et après en France, j'ai fait un trekking dans le sud de la France avec mon père. Donc là, continuer à camper, ça c'était génial. Et ensuite, retour à Paris. Paris, bon voilà, moyen. Et ensuite, départ à Berlin et départ en Allemagne. Allemagne, je suis allé au sud de l'Allemagne pour aller. Alors bon, j'avoue, c'était pour l'Oktoberfest. C'était le premier week-end de l'Oktoberfest à Munich. Mais je suis allé camper avant, aux alentours. Et j'ai continué de faire de l'autostop. Continuer à camper, faire de l'autostop. Ça n'a pas changé ma manière de voyager, si ce n'est que ça a confirmé quelque chose que j'avais en moi et que j'avais eu du mal à écouter avant. Mais maintenant, qui est assez clair, c'est que je veux continuer à voyager et en général faire des aventures avec des moyens limités. Donc l'autostop, camper dans ma tente, c'est exactement ça. Et j'ai changé un petit peu ma manière de voyager. J'ai acheté un vélo à Berlin et j'ai essayé de faire une petite expédition à vélo, ma première. Je suis parti de Berlin jusqu'en Pologne sur un week-end. Donc j'avais pas du tout d'expérience en vélo. Et donc ça a fait 150 km sur 2 jours. Et je suis parti sans sacoche, parce que sans sacoche de vélo, je suis parti avec mon gros sac à dos de voyage, ma tente, enfin, comme si je backpackais, mais sur un vélo. Et bon, alors c'est la dernière fois que je partirai avec mon sac à dos. sur un vélo, c'est vraiment pas du tout fait pour. Ça répercute tout sur le bas du corps, sous la ceinture. Et parce que tu as tout le poids qui traîne sur le dos. Et donc, voilà, ça presse. C'est super inconfortable. Donc, je comprends pourquoi les gens achètent des sacoches. C'est fait pour ça.
Ok, et donc cette pratique, tu essaies de la conserver dans la manière dont tu voyages. Est-ce que ton regard sur la société, alors tu parlais un peu des normes de la société française, mais en plus là maintenant tu es à Berlin, on n'en a pas encore parlé, mais tu es étudiant à l'ESCP,
Ouais.
qui est un campus à Berlin. Est-ce que tu dirais que ça a changé aussi, tu vois, peut-être, je sais pas, la manière socialement, est-ce que ça a changé des choses dans ton cercle d'amis, dans le type d'activité tu vois, loisirs que tu as, est-ce que finalement l'expérience, elle dépasse le cadre du voyage dans ce que ça t'a apporté?
Alors en termes d'amis, ça n'a pas trop bougé. Mes amis sont restés mes amis, ceux d'avant toujours. En termes d'activité, ouais, clairement, je pense que j'avais pas beaucoup d'expérience en arrivant en Argentine en termes de trekking. Camping, oui, pas mal, mais trekking, pas tellement. Et après, en Argentine, j'ai beaucoup, 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 beaucoup campé et marché. Sur 6 mois de voyage, j'ai passé 2 mois et demi dans ma tente. Et c'était majoritairement des treks, donc parfois je passais une semaine, je pense le plus long que j'ai fait, c'est 8 jours en trekking au Chili, au parc Torres del Paine, où je faisais que camper et marcher. Et donc ça, je suis revenu avec cette activité de trekking. Alors à Berlin, c'est compliqué quand même, hein, mais, mais quand je peux, ouais, je fais des petites escapades à droite à gauche. Alors, je suis revenu avec le trekking, le camping, ça a continué. Vélo, je l'ai développé ici. Parce que l'aventure en vélo, ça m'inspire beaucoup. Je me dis qu'on peut aller très loin avec un vélo. Donc, je pense que je ferai un voyage en vélo très bientôt. Un grand voyage en vélo. Et voilà pour les activités.
Génial. Génial. Est-ce que tu aurais peut-être un message pour synthétiser tout ce qu'on vient de se dire à faire passer sur, le voyage en autostop, mais peut-être au-delà de ça, le fait d'oser se lancer en étant finalement encore assez jeune, en plus dans un coin du monde où on nous dit que c'est quand même relativement dangereux, etc. Et toi, tu as vécu complètement autre chose. Donc, voilà, quel message, tu vois, te semblerait le plus intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent par rapport à ce que tu as vécu?
Alors, déjà commencer par l'autostop, je pense. Pour moi, l'autostop, c'est le meilleur moyen de voyager et de découvrir un pays quand on a le temps et qu'on est en minimum de conditions physiques. Parce qu'il faut quand même réussir à tenir et attendre debout pendant plusieurs heures parfois avec un sac à dos, avoir le smile, avoir envie de partager, d'écouter des histoires et de donner son histoire aussi. Donc, pour l'autostop, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de voyager. C'est le meilleur moyen de rencontrer des locaux, clairement. Après, en général, je pense que le plus important dans la vie en général, c'est de s'écouter et de surmonter sa peur de se lancer. On ne vit qu'une fois, et si tu as envie de faire un truc maintenant, quel que soit l'endroit où tu es, qui que tu sois, il faut le faire. Les gens pensent qu'ils doivent suivre un schéma prédéfini, mais non. En fait, si tu as envie de faire un truc, fais-le. Il ne faut pas avoir peur de s'éloigner des chemins classiques. Moi, je me suis rendu compte assez tard, en école de commerce, là, que ce que j'avais fait avant, 3 ans de prépa, puis le chemin classique, grande école, puis ensuite stage en finance, en fait, c'est pas celui qui me convient. C'était super d'avoir expérimenté ça, mais... Ensuite, j'ai commencé à m'écouter, à écouter ma voix à l'intérieur, et ça m'a mené vers toute autre chose. J'ai ensuite acheté un sac à dos, une tente, commencé à camper et découvrir l'autostop. Et là, je m'épanouis vraiment. Donc en fait, c'est pas parce qu'on est amené à suivre un schéma qu'il faut pas s'en éloigner à un moment, qu'il faut pas le remettre en question. Et ça passe par s'écouter. Donc vraiment, s'écouter et ne pas avoir peur de se lancer.
Excellent. Eh bien, écoute, Julien, un grand merci pour ce super témoignage. Curieux de savoir si... d'ailleurs, je te le demande en guise de conclusion. Est-ce qu'il y a de nouveaux trips un peu au long cours? Tu évoquais le vélo, là, mais est-ce que tu as des choses dans le carton déjà un peu planifiées qui arrivent?
Ouais. Normalement, début février, je pars en Chine faire un échange. Et ensuite, j'aurai terminé mon master. Et je voudrais descendre après mon diplôme, de la Chine jusqu'en Australie, soit en autostop, soit en vélo, mais en prenant bien mon temps pour visiter les pays, faire des treks, rencontrer les gens, vivre avec les gens. Donc ça serait soit en vélo, soit en autostop. Et ouais, je pense que c'est le plus gros trip que j'ai prévu pour l'instant.
Génial. Autostop et bateau-stop, du coup, non?
Ça se fait, ça, hein? Ah oui, carrément, oui, carrément. C'est prévu, bateau-stop, c'est prévu aussi.
Génial. Bah écoute, on se fera peut-être un épisode débrief du trip Chine-Australie une fois qu'il aura réalisé.
Avec grand plaisir.
Merci d'avoir écouté cet échange avec Julien jusqu'au bout. J'espère que comme moi, vous voyez maintenant le voyage en autostop d'un autre œil. J'ai vraiment adoré cet épisode et si c'est votre cas, prenez votre smartphone maintenant et envoyez le lien de l'épisode à au moins une personne que le sujet pourrait intéresser. Ça prend littéralement 5 secondes, mais c'est un gros coup de pouce pour le podcast. Si vous avez des feedbacks ou des suggestions d'invités, vous pouvez me contacter par email à hello@lesfrappés.com ou via le compte Instagram lesfrappés.podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode avec Annika Horn, la fille aînée du légendaire explorateur, et on va parler d'aventure.